Une des plus belles histoires que nous ait données la littérature est celle d'Isaac et de Rebecca dans l'Écriture sainte. Peu de gens admettent que la Bible soit un livre pour les jeunes, un trésor de récits idylliques. Isaac, lisons-nous, était en âge de se marier et son père, Abraham, souhaitait qu'il prenne une femme. Isaac avait la sagesse de désirer le conseil de ses parents. Je voudrais dire ici que si les jeunes ont besoin de conseils de la part de leurs parents, c'est surtout pendant cette période des fréquentations et des fiançailles. Un mariage change la vie de beaucoup de personnes, non seulement la vôtre et celle de votre fiancé, mais aussi celle de vos familles respectives. La Bible enseigne que le chrétien ne doit pas se placer sous un même joug avec l'incroyant. Le chapitre 24 de la Genèse nous révèle qu'Abraham voulait qu'Isaac prenne une épouse, une femme du peuple de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, un véritable chrétien, vous devez vous assurer que le jeune homme ou la jeune fille que vous voulez épouser connaisse le Seigneur personnellement et l'aime. Oui, les fréquentations sont une affaire sérieuse. Anne et Robert étaient fiancés. Anne était une jeune fille chrétienne ayant accepté Jésus-Christ dans sa vie. Ses parents, chrétiens aussi, lui avaient montré ce que la Bible enseigne sur l'union de deux êtres. Mais elle n'y prêta que peu d'attention. Elle était convaincue que ses fiançailles ne regardaient qu'elle. Robert avait promis de faire des progrès après leur mariage. Il alla même à l'église avec elle avant de l'épouser. 6 mois après, il commença à boire. Leur foyer fut bouleversé. Que de regrets. Vous remarquez qu'Isaac, dans la Bible, voulait que son mariage plaise à Dieu. Il ne se basait pas seulement sur une attraction physique. Isaac prépara son mariage dans la prière. Il voulait la volonté de Dieu. Il voulait glorifier le Seigneur par sa vie. Dieu a aussi un plan pour votre vie. Il a choisi quelqu'un pour vous. Le meilleur compagnon, la meilleure compagne, confiez-vous en lui. Attendez sa direction. Jusqu'où peut-on aller dans les fréquentations ? Que dire du flirt ? Eh bien, répondrez-vous peut-être, ce n'est pas là un sujet à traiter en public. Pourquoi pas ? N'oubliez pas ceci, le sexe en lui-même n'a rien de mal. Dieu vous l'a donné, mais la Bible a des règles à son sujet. Et si elles ne sont pas suivies, le sexe causera votre perte. Dieu n'est pas un tyran qui vous suit partout avec un bâton. Il n'est pas un trouble-fête qui dit « tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». Mais il a établi des règles pour votre bien. Il sait ce qui est bon pour vous psychologiquement, physiquement, spirituellement, dans tous les domaines. Dieu a dit que si nous voulons un sens d'accomplissement à notre vie, un sentiment du devoir accompli, une heureuse union, un heureux foyer, nous devons observer ces lois divines. Oui, en dehors du mariage, les relations sexuelles sont un péché. Aucun péché n'est condamné aussi sévèrement dans les Saintes Écritures que l'immoralité. Mais l'immoralité peut s'étendre dans plusieurs domaines. Nous pouvons la commettre mentalement, par les yeux et par la langue, car même nos paroles peuvent être corrompues. « Mets une garde à ma bouche », disait le psalmiste. Prendre part aux plaisanteries de mauvais goût, aux histoires et aux conversations immorales, tout cela, c'est commettre l'immoralité. L'immoralité peut être commise dans le cœur. Elle peut l'être dans notre façon de nous habiller. En lisant de la littérature ou en regardant des illustrés dont le but est uniquement d'exciter l'imagination. De la même manière, la Bible enseigne que l'oisiveté entraîne à l'immoralité. De nos jours, les moments de détente se multiplient, et si nous confions de plus en plus notre travail à des machines, nous pourrons nous trouver dans de sérieuses difficultés morales. Ce péché d'immoralité endurcit le cœur plus que n'importe quel autre péché. Vous pouvez commettre tel ou tel péché indéfiniment jusqu'à ce que votre conscience ne vous gêne plus, et cela vous place dans une dangereuse position. À ce moment-là, votre âme est souillée, votre intelligence amoindrie, votre volonté paralysée et quelque chose dans votre psychisme détruit. Il y a quelques mois, un psychologue m'a dit « Des centaines d'étudiants souffrent psychologiquement parce qu'ils vont au-delà de leurs propres convictions dans le domaine sexuel. » Votre attitude envers le sexe opposé influe sur votre vie maintenant et sur votre mariage plus tard. Les premières relations sexuelles immorales ne sont jamais oubliées. La Bible dit que l'immoralité conduit à l'enfer. Mais direz-vous, nous sommes jeunes, pleins d'énergie et de force. Qu'allons-nous en faire? Je suis convaincu qu'il est très difficile pour un jeune de vivre dans la pureté en dehors de Jésus-Christ. Aussi, je vous le dis, pour commencer, vous devez recevoir Jésus-Christ en vous, le reconnaissant comme votre sauveur personnel. Quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en vous et il vous donne la force surnaturelle de surmonter le mal et la tentation. Au moment où elle se présente, vous n'êtes pas seul et l'Esprit de Dieu vous donne la force de dire non. Nous sommes tous tentés. Si vous n'avez jamais connu la tentation, vous êtes la seule personne au monde dans un tel cas. Jésus lui-même a été tenté. Mais la Bible enseigne que la tentation n'est pas un péché. Beaucoup de chrétiens ne sont pas au clair sur ce sujet. Sont-ils tentés par tel ou tel péché? Ils pensent alors que la tentation est un péché, puis se découragent et tombent. Mais le péché survient seulement quand nous cédons à la tentation. Ah, me direz-vous, mais je ne peux résister à la tentation. Si, vous le pouvez. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tenté au-delà de votre capacité de résister. Il vous donnera un moyen d'en sortir. Si Christ vit dans votre cœur, vous n'avez pas à consentir à la tentation. Si vous n'êtes pas chrétien, naturellement, votre résistance est ébréchée. Vous voulez rester digne, vous avez des principes moraux, mais tôt ou tard, tout cela chancelle, s'effondre, et la tentation est la plus forte. Mais pour le vrai croyant en Jésus-Christ, il y a un moyen de lui échapper. Le Saint-Esprit en est l'auteur. Supposons que vous disiez « J'essaie de vivre une vie honorable, je fréquente l'Église, mais j'ai péché contre Dieu, que faire ?» Venez à Jésus-Christ et laissez-le effacer votre passé, tout comme il l'a fait pour la femme adultère et pour tant d'autres encore. Jésus vous pardonnera toujours avec tendresse. Il a toujours pardonné à ceux qui venaient à lui. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Il a pris sur lui le poids de ses horribles péchés et il l'a volontairement porté avec la souffrance et la mort et l'enfer et le jugement que vous méritiez. Ensuite, assurez-vous que votre cœur, non seulement est en règle avec Dieu, mais qu'il lui est consacré. Ce mot signifie « mis à part ». Il implique que vous présentiez votre corps à Dieu. Troisièmement, ne vous conformez pas au monde. Vous pensez peut-être que tous les autres le font, mais Paul affirme n'avoir aucune confiance en la chair. Lisez chaque jour la parole de Dieu. Elle remplit votre esprit des pensées de Dieu, et vous constaterez que ces pensées éloignent le mal. Veillez à vos réflexions intérieures, car dans le combat entre l'imagination et la volonté, l'imagination a le plus souvent la victoire. Attention à vos lectures. Soyez sévères pour décider des films que vous pouvez aller voir. Que vos sorties soient aussi sélectionnées. Si vous vous placez délibérément au sein du péché, il y a des chances pour que vous vous y laissiez prendre. Isaac était un homme de Dieu. Il était pur, vertueux, consacré. Et Dieu lui donna Rebecca, une fille merveilleuse. Et il eut une heureuse vie conjugale. Dieu peut vous aider à être la personne que vous devez être si vous placez votre confiance en Jésus-Christ.